La revue de presse internationale.
Bonjour Thomas Cluzel.
Bonjour Guillaume. Son visage est à la une ce matin de toute la presse brésilienne. Et à l'évidence, les photos ont été soigneusement choisies. Toutes suggèrent, avec plus ou moins d'intensité, le désarroi dans lequel se trouverait aujourd'hui Michel Temer. Quand il ne baisse pas les yeux sur la page d'accueil de Globo, tel un coupable à l'annonce du verdict, le président se mord la lèvre inférieure, laissant ainsi entendre, selon le journal du Brésil, combien il serait désormais envahi par l'angoisse. En une du Folha de São Paulo, on le croirait même en train d'écraser une larme au coin de l'œil, quoi qu'il en soit. Et hier soir, le procureur général du Brésil a donc présenté une demande de mise en accusation contre le président pour corruption passive. Et pourtant, quelques heures à peine avant que tombe la décision, Michel Temer s'était dit indestructible. Et de fait, rappelle la presse, il y a deux semaines, le chef de l'État avait encore échappé à la justice en bénéficiant d'un non-lieu dans une affaire de financement illégal de campagne qui aurait pu déjà lui coûter son mandat. À présent, cette procédure inédite, jamais un président brésilien n'avait fait l'objet d'une telle demande de mise en accusation, pourrait bien sonner le glas d'un mandat largement secoué par les affaires. Reste qu'il sera difficile de faire tomber le président, prévient aussitôt l'éditorialiste de Folha de São Paulo. Les tranchées destinées à le protéger seront difficiles à détruire pour que le président soit inculpé et traduit devant la Cour suprême. La demande du procureur général doit en effet être acceptée par les deux tiers des députés. Or, non seulement le président dispose encore d'un puits important au Parlement, mais beaucoup de députés sont par ailleurs eux-mêmes impliqués dans des affaires de corruption, ce qui, selon un spécialiste du site Congresso em Foco, crée une sorte de réseau de solidarité, dit-il. Enfin, quand bien même Michel Temer ne dispose plus d'une majorité solide au Parlement, rien ne dit que l'opposition aura la force nécessaire pour l'écarter du pouvoir. Elle, en revanche, a bien l'intention de revenir au pouvoir. Elle, c'est Cristina Kirchner. L'ex-présidente argentine s'est officiellement portée candidate ce week-end aux élections sénatoriales qui se tiendront à l'automne prochain. Une annonce qui continue de susciter nombre de commentaires, en particulier selon le site d'information Infobae, repéré par le Courrier international. Il semble difficile aujourd'hui de croire qu'après avoir été l'arrogante patronne du kirchnerisme et s'être ensuite transformée en une sorte de monarque, elle soit aujourd'hui véritablement animée par le désir de servir son pays à un poste aussi modeste. En clair, les motivations de la candidate pourraient être bien davantage liées à sa délicate situation judiciaire. Madame Kirchner est aujourd'hui sous le coup d'accusations de corruption. Elle a d'ailleurs déjà pu comparaître à plusieurs reprises devant un juge ces derniers mois. Enfin, au Mexique, cette fois-ci, Guillaume, là, un nouveau scandale vise le gouvernement du président Enrique Peña Nieto. Plusieurs journalistes dans le collimateur du pouvoir, mais aussi les avocats des familles des 43 étudiants disparus en 2014 et sans doute assassinés, auraient tous été surveillés grâce à leur téléphone portable dont le contenu était discrètement happé par un logiciel espion. Un logiciel que seuls les gouvernements peuvent se procurer. Alors bien entendu, les autorités mexicaines nient catégoriquement toute implication dans ces agissements. Reste rappel pour sa part de New York Times que des soupçons ont déjà pesé sur le pouvoir en début d'année et notamment pour son utilisation, là aussi, de logiciels espions à des fins de surveillance d'opposants politiques.
Surveillance et manipulation politique, toujours et encore cette fois-ci aux États-Unis, Thomas Cluzel.
Oui, depuis la publication en fin de semaine dernière d'une minutieuse enquête du Washington Post sur les conditions dans lesquelles Barack Obama avait été informé dès le début du mois d'août 2016 des intentions belliqueuses de la Russie envers la campagne présidentielle américaine, Donald Trump a choisi d'opter hier pour un ton nettement plus offensif. On me doit des excuses, a notamment lancé exaspéré l'actuel président dans une salve de tweets virulents contre son prédécesseur démocrate. Et de fait, tout le monde s'interroge pourquoi Barack Obama a-t-il attendu si longtemps, 5 mois, pour rendre compte publiquement de cette information. Selon The Washington Post, Obama redoutait sans doute de se voir possiblement accusé de s'immiscer dans la campagne américaine, sans compter qu'on imagine aisément comment Donald Trump se serait lui servi de ces révélations pour dire qu'on voulait le déstabiliser. Et puis, même s'il est resté silencieux, en réalité Obama a réagi à ces informations de la CIA, en particulier avec l'annonce fin décembre des sanctions contre la Russie, à quoi s'ajoute une mesure jusqu'ici confidentielle. La Maison-Blanche aurait autorisé l'implantation d'armes informatiques potentiellement destructrices dans les infrastructures russes. Sauf que ce projet était encore en phase préparatoire lors du départ d'Obama. Or, rien n'indique aujourd'hui que Trump a depuis annulé cet ordre. La question qui agite désormais les États-Unis, donc de savoir si ce programme est toujours en veille et comment le nouveau président pourrait tirer profit des actions de son prédécesseur.
Enfin Thomas, s'agissant de tambouille politique, la Grande-Bretagne n'est pas non plus en reste.
Oui, ce qui agite ce matin toute la presse britannique, c'est le deal passé hier entre la Première Ministre et le parti unioniste démocrate nord-irlandais pour s'assurer une majorité absolue à la Chambre basse. En échange de la garantie que ces 10 députés apporteront leur voix au gouvernement, pour tous les votes clés, les ultra-conservateurs nord-irlandais recevront un chèque de plus d'1 milliard de livres, ce qui pour une province de moins de 2 millions d'habitants constitue une somme pour le moins conséquente. Quand The Guardian parle ce matin d'un mauvais deal, son confrère The Independent dénonce lui un accord crasseux. De son côté, le tabloïd The Sun juge que si tout ceci n'est certes pas très joli, c'est néanmoins préférable pour la Grande-Bretagne, car cela signifie, dit-il, que nous avons désormais un gouvernement viable, le rançon du succès. La rançon du succès.
Merci beaucoup Thomas Cluzel.